Calixte pourrait faire penser à une interjection québécoise. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Clic Clac Topette sur Radio G. La rencontre qui va suivre était inéluctable. Comment parler de ceux qui font battre l'Anjou sans ne jamais recevoir Calixte de Nigremont ? Il vient nous présenter son panthéon de l'Anjou. Nous ouvrirons notre série chronique de l'histoire angevine avec Thomas Chevalier, qui va nous raconter au fil des émissions l'histoire de la Croix d'Anjou. Mais avant tout ça, c'est Seb de la Case de Seb qui nous parle de la série Donjon en bande dessinée.
Salut, c'est Seb de la Case du même nom au micro. Je vais vous parler d'une série pas vraiment historique mais qui pourtant comporte de vieilles pierres. Il s'agit de la série Donjon créée par Lewis Trondheim et Johan Svarr en 1988 et publiée encore aujourd'hui aux éditions Delcourt. Cette série pléthorique, plus de 40 albums à ce jour, nous raconte l'histoire d'un donjon dans un cadre fantastique. Un grand et vaste donjon médiéval regorgeant de secrets comme on en trouve souvent dans les jeux de rôle dont la série s'inspire. Oui, je parle bien du bâtiment qui, lui, est le centre de l'histoire. Et la série est divisée en plusieurs sous-séries dont les trois principales, Potron Minet, qui nous narre la naissance et la construction du donjon, Zénith, son apogée, et Crépuscule, son déclin. D'autres séries s'intercalent entre ces trois grands axes, soit pour prolonger l'histoire avec des seconds couteaux, ou simplement pour servir de divertissement sans se soucier de la chronologie ni de la trame principale. La série se complète avec la série bonus qui comprend un jeu de rôle complet nommé Clé en main, rendant à César, ou plutôt au jeu de rôle, ce qui lui appartient. Bien entendu, des personnages récurrents sont à découvrir au cours des albums, d'une même série, mais également à travers les différentes époques, certains d'entre eux ayant subi des changements et évolutions de caractère importants au fil des ans, comme le dragon Marvin par exemple, mais je vous laisserai le plaisir de le découvrir. Définir graphiquement la série Donjon est complexe, puisqu'en plus du duo fondateur, de nombreux artistes ont su greffer leurs différents styles au cours des différents albums. On pourra noter la participation de Boulet, Aubion, Manu Larsenet, Andreas, Grégory Panation, parmi tant d'autres. Beaucoup d'auteurs donc, mais tout en réussissant à garder un univers graphique fort. Une série à découvrir que vous pouvez lire soit dans un ordre chronologique ou simplement en la picorant par sous-série. Le tout étant disponible bien entendu chez votre libraire favori, aux éditions Delcourt.
Calixte de Nigremont, bonjour.
Bonjour ami, bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Clic Clac Topette sur Radio G.
C'est un plaisir, c'est un honneur d'être reçu dans cette émission mythique.
L'honneur est pour moi, je pense.
Ne parlons pas d'honneur en longueur de temps, on va s'envoyer la balle.
En vous accueillant, je m'expose à un périlleux exercice parce que déjà, je vais devoir surveiller de très très près mon langage. Et surtout, je vois pas comment commencer pour vous présenter, tellement il y a de talents, tellement il y a d'actions diverses chez Monseigneur. Par où est-ce qu'on peut commencer là ?
Ne me demandez pas à moi comment vous commencez votre interview. Bon. C'est le monde à l'envers, c'est vous qui la faites. Et moi je réponds, mais c'est déjà
vous,
un travail.
C'est vous le maître quand même.
N'exagérons pas.
Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc Calixte de Nigremont, le maître de cérémonie. Celui qui a osé réclamer les bijoux de la couronne d'Angleterre pour l'Anjou. La plume qui signe le billet indépendantiste et humoristique de l'Anjou chaque samedi sur Ouest France, mais aussi l'architecte du Panthéon de l'Anjou. D'ailleurs, avez-vous trouvé le terrain ou la bâtisse qui va pouvoir accueillir tous ces grands noms ?
On avait proposé dans un billet indépendantiste, justement il y a quelques années, j'avais proposé que ça soit dans le reposoir du Tertre Saint-Laurent, qui est quand même tout petit.
Oui,
donc
oui.
On pourrait y mettre que des petits morceaux des panthéonisés.
Je pense qu'il y a plus de personnes que ça.
Parce que je pense qu'au bout de la série du Panthéon de l'Anjou, auquel vous faites allusion, qui paraît dans Ouest France tous les dimanches, en page départementale,
d'accord,
nous devrions atteindre une centaine de pensionnaires.
Les conditions d'entrée, c'est quoi ?
Il convient d'avoir contribué au rayonnement de l'Anjou ou à avoir une réputation, une notoriété, une action qui va au-delà des frontières de l'Anjou. C'est-à-dire qu'on y trouve aussi bien Dumnacus, le célèbre chef angevin, mais qui n'est connu qu'en Anjou, nom a rarement dépassé les frontières, jusqu'à Ménie Grégoire, que chaque Français a pu connaître. Je vois votre œil intégratif, vous ne savez pas qui est Ménie Grégoire.
Ménie Grégoire,
elle est une animatrice radio qui est sans doute une des plus grandes références pour les personnes qui ont plus de 40 ans, parce qu'elle a contribué puissamment à défendre la cause des femmes à la radio, donc dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80,
une Angevine,
passant par William Penn, qui est un Quaker qui a fait ses études à Saumur,
oui,
et qui a ensuite été fondé la Pennsylvanie et Philadelphie.
C'est dommage parce que moi je pensais que le nombre était de 49, parce que ça aurait été symbolique, 49 panthéonisés pour l'Anjou, 49.
Le problème c'est que nous en avons beaucoup plus que ça.
Ben oui.
J'aimerais bien limiter, mais je ne peux pas.
Du coup, ce sera une centaine à peu près.
Je pense que ce sera une centaine, oui. A priori, au bout du compte, la série devrait faire 2 ans et je pense qu'on aura une centaine de pensionnaires.
Pour les trouver, ça va, c'est pas trop dur.
Non. Alors, ce qui est compliqué, c'est de trouver des angevines. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que globalement, les angevines qui passent à la postérité s'établissent en 3 catégories. Mmh. Les souveraines, les saintes ou fondatrices de congrégations religieuses, ou les vedettes de cinéma.
Alors, on ne l'a pas précisé d'ailleurs juste avant, mais cette idée vous est venue à cause de l'annulation des nombreuses dates en 2020. On sait tous à cause de quoi. Mais vous aviez déjà tous ces noms en tête, du coup, de l'Anjou. Je pense à Antoine Cristal ou Marie Talley, par exemple.
Bon, tout le monde les connaît.
Ouais.
D'abord parce que, pour beaucoup d'entre eux, on a donné leur nom à des rues en Anjou, ou que ce soit. Et c'est surtout qu'effectivement, je me suis trouvé absolument désœuvré. J'ai à peu près 150 dates qui ont disparu dans l'année blanche, pandémie.
Ouais.
Donc, du coup, j'avais du temps. Et il fallait juste chercher et faire un listing. Et alors, évidemment, je ne pourrais pas faire le tour. Il y a des tas de gens qui n'y seront pas et qui mériteraient d'y être. A contrario, je ne pense pas qu'il y en ait qui n'y aient pas leur place.
Alors, c'est pas que des portraits, parce qu'il y a des détails historiques. Moi, je pense à André Leroy, par exemple, la petite anecdote, qui dit qu'il a dressé les plans du jardin du Mail à Angers. Est-ce que ça s'ajoute aux nombreux talents de Calixte, la recherche historique ?
C'est ma formation
de base
initiale. Je suis historien, ouais. J'ai été formé à l'université d'Angers. Et donc ça fait partie des choses qui évidemment m'intéressent pour ne pas dire me passionnent, mais qui sont alors une partie annexe de mon activité professionnelle principale, puisque la maîtrise des cérémonies je la pratique globalement assez peu en Anjou et beaucoup ailleurs,
ouais.
Et beaucoup ailleurs on ne s'intéresse pas vraiment à André Leroy ou à Dumnacus.
Mais en Anjou par contre ça plaît.
En fait tout simplement parce que l'opportunité s'est présentée il y a 6 ans, puisque nous sommes au milieu de la 6e saison du Billet indépendantiste.
Ouais.
Arnaud Vajdic, qui est à l'époque directeur départemental de Ouest-France, m'a proposé un jour de faire un billet d'humeur dans Ouest-France le samedi. Et j'ai accepté en disant, mais d'accord, mais je veux avoir un angle particulier, et l'angle de l'indépendantisme angevin s'est imposé d'emblée.
Ouais.
Et partant de là, effectivement, j'écris chaque samedi un billet d'humeur, donc, avec comme référence la nécessaire indépendance de notre territoire.
C'est absolument nécessaire. Alors d'ailleurs, les billets indépendantistes ont fait l'objet d'un livre.
Oui, ils sont parus il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, je crois.
Qui s'appelle donc Vive l'Anjou libre.
Vive l'Anjou libre, le premier tome, puisque le deuxième tome sortira, je l'annonce, c'est quasiment un scoop, à l'automne prochain.
Très bien. Et d'ailleurs, par rapport au Panthéon, justement, ce serait dommage que toutes ces belles pages qui paraissent elles aussi une fois par semaine ne fassent pas l'objet d'un livre.
Je vous offre un deuxième scoop pour le prix unique que je vous ai proposé d'emblée, puisqu'effectivement, le Panthéon d'Anjou sortira effectivement aux mêmes éditions, aux gestes éditions, à peu près la même période, je pense.
Et bien ça, c'est une très bonne nouvelle, et ça tombe bien, ce sera un peu avant les fêtes. Donc,
oui, c'est ça. Ça n'est pas le fruit du hasard, soyons clairs.
Je n'en doute pas. Dans quelques instants, on retrouvera le premier épisode de notre série chronique Croix de Lorraine ou Croix d'Anjou avec Thomas Chevalier. Mais avant ça, je vous propose un vrai faux.
Pas, c'est forcément Croix d'Anjou.
Oui,
la
voilà,
Croix de Lorraine
ça.
N'existe pas.
Exactement.
J'espère que je n'ai rien dévoilé, que je n'ai pas spoilé la fin de votre chronique.
Non, pas du tout.
Très bien.
Ce sera l'intrigue principale, justement.
Très bien.
Mais avant ça, je vous propose un vrai faux avec Calixte de Nigremont. Premièrement, vrai ou faux, Calixte n'est pas né en Anjou.
Ah bah c'est faux, je suis né à Cholet.
Ah bah voilà, donc
tout le monde le sait.
Cholet est en Anjou dans
c'est une autorité publique.
Ok. Vrai ou faux, Calixte est présent sur le testament de la reine Elisabeth II pour hériter des joyaux de la couronne d'Angleterre.
Alors, dans la mesure où la reine Elisabeth ne s'est pas encore donné la peine de passer de vie à trépas,
oui.
Rien n'est encore fait. Mais effectivement, à ce jour, je n'y suis pas. Enfin, à part ma connaissance, en tout
donc,
cas.
Donc, tout est possible.
À moins que vous ayez des informations contradictoires.
Non, j'aimerais bien, mais non. Vrai ou faux, Calixte écoute de la musique bretonne en secret.
Pas non.
D'accord. Non, parce que la musique angevine, on...
Ah bah, Il y en a. Il y en a.
Il y a la musique du roi René, je crois, qui a été faite.
Je parlais moins. Je pensais moins à la musique du roi René qu'au Tugs, que à l'Ojo, que. Enfin, voilà.
La rue Quétanou, non c'est,
La rue Quétanou, ils sont saumurois.
Il me semble. Je crois qu'il y a. Bon, en fait, il y en a.
Je confirme, bien sûr qu'il y en a.
Vrai ou faux, Calixte vit toujours dans la demeure familiale du XIIIe siècle des Nigremont.
Alors, oui. Non, c'est le 13e siècle qui m'interroge.
Ah, j'ai cru voir ça, 13e
siècle. Non, c'est 18e.
18e, bon bah transition toute trouvée pour la dernière partie de notre échange. Sans parler de refaire l'historique de la famille de Nigromont, j'ai lu sur le site, il me semble, mais je me suis peut-être trompé, qu'elle avait été ruinée et qu'aujourd'hui, du coup, vous étiez le dernier héritier à entretenir le manoir familial qui est en fait du 18e, c'est ça ?
C'est ça, absolument, oui. Ouais. Ben, nous sommes, je suis ma famille, et comme bon nombre de familles scholtaises, nous avons été ruinés par l'arrivée du Kleenex.
Ouais, j'ai vu ça.
Ce mouchoir en papier qui nous a fait beaucoup de mal et qui a mis à bas l'industrie du linge de maison qui faisait la fierté du Scholtais. Oui. Et donc du coup, alors, soyons honnêtes, le mouchoir en papier nous a fait beaucoup, beaucoup de mal, les délocalisations nous en ont fait au moins autant. Et du coup, effectivement, depuis que l'industrie textile a cessé, dont nous étions un des piliers, puisque mon grand-père dirigeait une de ces maisons, nous sommes dans une misère noire. Donc je suis obligé d'aller travailler partout dans le monde, aller jouer le maître de cérémonie en divers endroits.
Pour notre plus grand plaisir.
Mais j'entends bien ça.
Et justement, cette demeure, est-ce qu'il est possible, par exemple, à l'occasion des journées du patrimoine, de la visiter ?
Non, je n'ouvrirai pas cette demeure familiale à qui que ce soit. Enfin, d'abord, nous ne sommes pas classés. Quand la demeure sera classée, peut-être que j'y réfléchirai, mais il faudrait d'abord que le ministère de la Culture se donne la peine de m'envoyer un émissaire afin d'étudier et nos collections et nos bâtiments. Une fois que ça se sera fait, peut-être que j'envisagerai. Mais pour l'heure, ça n'est pas. Nous sommes encore un peu en chantier.
Affaire à suivre. J'espère que Clic-Clac aura l'honneur d'avoir cette information.
Nous devons ouvrir au public, les premiers qui entreront dans cette demeure, ce seront évidemment les envoyés spéciaux de Clic-Clac Topette.
Merci beaucoup, Calix de Nigremont, d'être venu chez Clic-Clac Topette présenter votre Panthéon de l'Anjou. Par quel mot souhaiteriez-vous conclure cet échange ?
Vive l'Anjou libre, ça me semble tout à fait s'imposer.
Très bien, on va conclure là-dessus alors. Je rappelle donc que vos portraits d'angevins à panthéoniser sont à découvrir dans Ouest France tous les dimanches.
Et le samedi, le billet indépendantiste continue son combat pour la libération de l'Anjou.
Prononcez De Gaulle et vous verrez immédiatement apparaître la tête du général et la croix de Lorraine. Les origines de celle-ci sont évidemment d'ordre religieux et chrétien. Beaucoup affirment que la vraie croix de Lorraine est ici, en Maine-et-Loire, à Beaugé. Thomas Chevalier nous raconte son histoire sur Clic-Clac Topette et Radio G.
Au moment de l'invasion de la France par l'Allemagne nazie, le général de Gaulle réfléchit à la création d'un symbole fort qui permettrait d'identifier clairement le mouvement de résistance français. Émile Muselier, premier officier général à la rallier à Londres en juin 1940, lui propose alors d'apposer la croix de Lorraine au centre du drapeau français. Et l'objectif est clair, il faut s'opposer à la croix gammée du régime nazi et se distinguer également du régime de Vichy qui continuait, lui, d'utiliser évidemment le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Mais qu'est-ce qui motive ce choix ? Eh bien, en fait, le père d'Émile Muselier est lorrain, d'abord. Mais la croix de Lorraine parle d'autant plus à l'état-major français exilé à Londres qu'elle était déjà présente sur l'insigne du régiment que De Gaulle commandait en 1937. Et l'idée séduit évidemment le général, et le signe deviendra très vite un symbole de la France libre. En France, pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, la croix de Lorraine est mise à l'honneur sur les emblèmes et logos des mouvements politiques de droite qui se revendiquent de l'héritage du général. Le RPR, parti de Jacques Chirac, élu en 1995, puis réélu en 2002, arbore fièrement ce symbole gaulliste. Mais quand l'UMP est fondée en 2002 toujours par Jacques Chirac, la croix de Lorraine disparaît temporairement des visuels politiques, et elle ne réapparaîtra que 15 ans plus tard, au plus près du pouvoir. En effet, Emmanuel Macron ne cache pas non plus son admiration pour De Gaulle. Il y fait même référence sur la photo de son investiture à la présidence de la République, où l'ouvrage « Les mémoires de guerre » du général apparaît ouvert sur son bureau. En septembre 2018, il fait même rajouter la croix de Lorraine sur le sceau officiel de l'Élysée. On peut y voir un clin d'œil au fondateur de la 5ème République en cette période de contestation et de remise en cause des institutions. Mais est-ce qu'il sait, le président, que ce symbole est directement relié à une relique qui brille tranquillement dans une chapelle angevine ?
Effectivement, il y a une vraie croix à Beaugé qui serait celle qui aurait inspiré les Lorrains. Thomas tentera de nous expliquer dans sa prochaine chronique ce qu'est une vraie croix et comment celle-ci serait arrivée ici, en Anjou. Retrouvez l'ensemble des chroniques de Clic-Clac Topette sur Instagram et Facebook, sans oublier radio-g.fr pour réécouter tous les podcasts, dont celui-ci. Je vous donne rendez-vous lundi dans 2 semaines à 13h sur Radio G. Topette !